Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Patience Ngalula.
À la une de cette édition d'information, au Nord Kivu, les enfants déplacés vivent dans des conditions précaires dans plusieurs villages et localités du territoire des Lubero. Le Parlement d'enfants de Butembo Lubero, qui alerte sur cette situation, fait savoir qu'ils sont ainsi exposés à toutes sortes d'abus. L'ONG Les Amis de Nelson Mandela pour la défense des droits humains propose, entre autres alternatives, la peine capitale, la prison à perpétuité. Dans une déclaration ce mercredi, cette ONG recommande au président de la République de réaffirmer le soutien et l'engagement de la RDC aux principes fondamentaux des droits de l'homme en faveur de l'abolition de la peine de mort. L'invité de ce journal est le père curé de la paroisse Sainte-Honorine de Kinshasa. Il parle de la menace récurrente des érosions dans les quartiers Plateau 1 dans la commune de Mongafula où se situe sa paroisse et lance un SOS aux autorités afin de leur implication dans la lutte contre ces phénomènes. Bonjour, ce journal part du Nord Kivu, où les parlements d'enfants de Butembo et Lubero alertent sur la souffrance des enfants déplacés dans plusieurs villages et localités du territoire des Lubero. Ils ont fui avec leurs familles les combats entre le FRDC et les rebelles du M23 dans les territoires voisins de Rutshuru. Le président de cette structure de défense des droits des enfants affirme que beaucoup de ces enfants manquent de tout, notamment à manger. Certains sont exploités sexuellement dans des maison des tolérances pour subvenir à leurs besoins. Joël Ngunza, président du Parlement d'enfants de Butembo et Lubero, explique au téléphone de Martial Papi Mukeba.
La guerre étant à la base des déplacements des familles, les enfants du territoire de Lubero, actuellement, ils sont en situation de faim. Ils n'ont rien pour manger et ils n'ont pas de lieu où ils peuvent se loger. Depuis que le taux des déplacements des familles a augmenté, plus de 10 enfants sont morts à cause du faim dans le territoire de Lubero. Et on s'est dit pourquoi cette non-assistance aux enfants. Toujours dans le territoire de Lubero, actuellement, les enfants sont exploités sexuellement. La majorité des maisons de tolérance, ce sont les enfants qui remplissent ces maisons de tolérance. Presque partout dans le territoire de Lubero, vous ne pouvez pas trouver un village sans au moins 3 maisons de tolérance. Et là, ce sont les enfants qui sont exploités. Les enfants de 16 ans, de 15 ans et de 17 ans y sont. Et malheureusement, actuellement, certaines violations graves des droits des enfants commencent à devenir comme normales.
Toujours au Nord Kivu, dans les territoires des Beni, les chefs du village de Vemba Mavivi plaident pour une meilleure sécurisation de la population contre les attaques de ZDF. Depuis quelques semaines, ces rebelles multiplient les attaques dans la périphérie de la ville des Beni et plusieurs villages du territoire des Beni. Gervais Makofi Bukuka demande au FRDC et ses partenaires de la MONUSCO ainsi que de l'armée ougandaise de mettre tout en œuvre pour protéger les civils, ce qui selon lui est un droit. Il le dit au téléphone de Guylaine Kassassia.
À ce qui concerne la sécurité de la population de la ville et du territoire de Beni, c'est une désolation aux côtés de nous, la population, victime jour comme nuit. La sécurité qui vient d'être grandissante dans notre région de Beni, et particulièrement dans le groupement de Batangembaou, qui est très menacé depuis le début de l'année. J'aimerais appeler d'abord le gouvernement de leur dire que la sécurité, c'est notre droit, ce n'est pas la faveur. Pourquoi en temps de jour, les rebelles en train de nous massacrer tant que nous alertons jour comme nuit concernant les mouvements des ennemis de la paix dans notre région. Nous, comme population, notre devoir est de partager seulement que les informations et l'armée est là pour la protection et la sécurisation de la population. Nous demandons plus fort au commandant secteur et aux autorités de l'armée de faire le mieux possible pour la restauration de la sécurité chez nous. En cela, nous demanderons encore plus les partenaires MONUSCO et l'UPDF de multiplier leurs efforts côté l'appui à l'armée pour que ensemble nous vivons la paix dans notre contrée de Beniville et territoire.
Revenons à Goma pour parler de la rareté de la viande de bœuf qui s'observe depuis quelques temps sur les marchés, entraînant du coup la hausse de son prix. Un kilogramme qui revenait à 3 $ se vend actuellement à 6 $. Les fournisseurs et bergers évoquent l'occupation de plusieurs fermes par les rebelles du M23 dans les territoires de Masisi. Denise Loukesso.
Selon les fournisseurs rencontrés à la société abattoir de Goma Sabago, chaque vache quittant Masisi pour Goma paye 20 dollars comme taxe dans les zones occupées par les rebelles. Pour échapper à cette tracasserie, certains ont résolu de faire passer leurs vaches par les lacs. Témoignage.
Les vaches provenaient de plusieurs fermes de Mushaki, Ngungu et ailleurs. Aujourd'hui, elles n'arrivent plus à cause de la guerre. D'autres provenaient de petits marchés locaux dans cette région, mais aujourd'hui, rien. Maintenant, les fournisseurs font maison à maison, là où il y a un peu de sécurité. Ils amènent quelques-unes et les acheminent jusqu'au bord du lac pour les embarquer dans un bot dans la zone d'M23 pour faire passer une vache, c'est 20 dollars. Il ne pose aucun problème. C'est question juste de payer et tu passes. Il revient maintenant à toi, le fournisseur, de récupérer ton argent en majorant le prix de vente.
Signalons qu'actuellement, un kilo de viande de bœuf se négocie entre 5,5 et 6 dollars auprès des détaillants dans les boucheries, alors que peu avant la guerre, les kilos se vendaient à 3 dollars. Et une vache génisse à l'achat coûte entre 700 et 750 dollars, alors qu'elle coûtait 300 dollars auparavant. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Direction à présent en Ituri, où deux présumés bandits ont été lynchés mardi par la population au quartier Bigo Kolomani dans le centre-ville de Bounia. Le premier est mort sur les champs, tandis que l'autre est décédé à l'hôpital général de référence où ils ont été tous deux acheminés. Un autre présumé bandit a été appréhendé par la population la même nuit après avoir cambriolé trois habitations sur avenue Getty au quartier Hoho. Des voix s'élèvent pour décrier non seulement les régions de la criminalité urbaine, mais aussi exhorter la population à ne pas s'y rendre justice. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
Vers 2h du matin, un groupe de 8 présumés bandits est surpris en plein cambriolage d'une maison d'habitation au quartier Bigo Kolomani. Trois parmi eux, qui possédaient des couteaux, machettes, marteaux et d'autres armes blanches, ont tenté de forcer la porte. Des alertes fournies par le propriétaire de la maison ont réveillé des voisins qui sont venus à la rescousse. L'un d'eux, tabassé, a rendu l'âme sur les champs, tandis que l'autre a été transporté à l'hôpital après l'intervention de la police. Toujours dans la même nuit, un autre bandit a été maîtrisé par la population qui voulait également les lyncher sur avenue Getty au quartier Hoho, alors qu'ils venaient de cambrioler trois maisons d'habitation. Contacté, le commandant ville de la PNC indique qu'il s'agit d'un réseau de malfrats qui proviendrait des sites d'accueil des déplacés et qui sont recherchés. Le colonel Abeli Mwangu.
Cette bande de criminels est constituée de 8 jeunes, désœuvrés, fumeurs de chanvre, 2 décédés des suites de leurs blessures, 5 en fuite. Ce énième cas de justice populaire est condamné par la police à la population de collaborer en dénonçant les auteurs des crimes enregistrés dans la ville de Bounia.
Des voix s'élèvent pour décrier le regain des criminalités urbaines dans les centres-villes, notamment au quartier Oho, où un conducteur de moto a été tué par son client. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Parlons à présent de cette SOS de déplacés de Kwamout à la nouvelle première ministre. Les déplacés de Kwamout vivant dans la ville de Bandundu au Kwilu à la suite des violences du conflit Tekeyaka désirent une seule chose, retourner dans leur village respectif. Ils l'ont déclaré mercredi 48 heures après la nomination par le président de la République d'une femme au poste de premier ministre. Selon eux, ils sont dépourvus de tout, ils ont perdu leur maison, leur champ et leur bétail. Ils demandent à la nouvelle première ministre Judith Suminwa-Tuluka de travailler pour le retour de la paix dans la région. Irène Bomaluzolo nous fait le point.
Les conditions de vie des déplacés des Kwamout qui sont à Bandunduville restent toujours précaires. Il manque de vivres, d'installations sanitaires, de kits hygiéniques pour les femmes et ils n'ont pas l'accès facile aux soins de santé. À en croire ces déplacés, l'absence d'aide humanitaire est criante. Face à cette situation, ces déplacés demandent à Madame Judith Suminwa-Tuluka, la nouvelle première ministre récemment nommée par le président de la République, de tout mettre en œuvre en sa qualité des chefs du gouvernement pour leur permettre de retourner dans leurs milieux respectifs au plateau de Bateke et de reprendre leur vie d'antan. Tous nos biens, nos maisons, nos champs et nos gros bétails ont été incendiés. Que la première ministre fasse tout pour que nous puissions rentrer dans nos villages, mais qu'elle reconstruise nos maisons détruites. Que la maman mette fin à ce désordre entre les Tékés et les Yaka. Qu'elle nous assiste même avec des tôles et des semences. Rappelons que cela fait déjà près de 2 ans que certains parmi ces déplacés ont trouvé refuge dans la ville de Bandundu, fuyant les atrocités de la milice Mobondo à Kwamut au Maïndombe. Les uns sont logés au site de Malebo et d'autres dans les familles d'accueil. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, les amis de Nelson Mandela pour la défense des droits humains recommandent au président de la République de réaffirmer le soutien et l'engagement de la RDC aux principes fondamentaux des droits de l'homme en faveur de l'abolition de la peine de mort. Dans une déclaration faite ce mercredi à Kinshasa, cette ONG propose, entre autres alternatives à la peine capitale, la prison à perpétuité, ce qui éviterait des erreurs judiciaires et règlement des comptes contre des adversaires politiques. Les coordonnateurs des programmes Les Amis de Nelson Mandela pour la défense des droits humains, Aaron Mukakengi l'a dit au micro de Jeff Ngoy.
ANMDH rappelle que la peine de mort est une négation au respect des droits de l'homme. Conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les individus ont droit à la vie et à la protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants. La peine de mort est une mesure cruelle et inhumaine qui ne saurait être justifiée par quelque objectif que ce soit, tel que la dissuasion ou la justice rétributive. Avec la corruption décriée et l'injustice qui gangrène les instances judiciaires de la RDC, ANMDH s'inquiète sur l'exécution abusive de la peine de mort en RDC, qui risque de devenir une pratique légale de vengeance, de terreur ou de justice sélective contre les adversaires politiques. C'est pourquoi il est préférable de mettre l'accent sur des alternatives à la peine de mort, telles que la prison à perpétuité. Normalement, toute peine doit avoir un caractère général et être appliqué de manière équitable sans cibler une catégorie de personnes ou une période spécifique.
Rendons-nous à présent au Maniema où l'on signale la présence de la maladie à conjonctivite. Le médecin ophtalmologue qui les confirme exhorte la population de se rendre aux structures sanitaires les plus proches une fois atteint par la maladie. Docteur Charles Omesumbu-Chako invite la population à ne pas appliquer n'importe quoi dans les yeux. Il donne quelques précautions pour faire face à la conjonctivite au micro de Florence Kizalunga.
Oui, je confirme. Chaque jour à la consultation, nous recevons des cas et la maladie est en train de se répandre dans la ville. Premièrement, les gens vont se rendre compte que les yeux deviennent rouges, ça rougit et ça larmoie. Pour la conjonctivite virale, c'est plus les larmes, l'écoulement est aqueux. Et pour la conjonctivite bactérienne, lorsqu'il y a surinfection, là, on a comme des sécrétions mucopurulentes qui surviennent. Par moments, les paupières gonflent. Et puis, le malade va sentir comme s'il y a des corps étrangers dans les yeux, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. C'est comme ça un peu qu'on reconnaît. Le malade ne va pas supporter la lumière. Et comment nous devons faire pour éviter la propagation? C'est une maladie qui se transmet par contact. Et nous devons faire exactement comme nous l'avons fait avec la COVID-19. Nous devons nous laver régulièrement les mains au savon. Nous devons éviter de toucher nos yeux. Il faut éviter de frotter les yeux parce que ça aggrave les lésions. Pendant cette période, nous évitons de nous saluer par la main. Et lorsque la personne est atteinte, on l'amène à la clinique, nous soignons et nous pouvons arriver à couper la chaîne de transmission de cette manière-là.
Et puis, cette information, dans le territoire de Lubero, au nord Kivu, la société civile de la localité de Moigné alerte sur l'état de délabrement avancé de certaines routes de dessertes agricoles dans cette entité. Conséquence, la population locale éprouve des difficultés pour évacuer les produits vivriers vers la ville de Butembo, située à 50 km de Moigné. Le président de cette structure citoyenne plaide pour la réhabilitation de ces routes afin de désenclaver la localité de Moigné. Isaac Paloukou s'est révélé est au téléphone de Grévis Salomon.
Nous, population de Moigné, nous souffrons pour quitter Moigné. Les clients dépassent facilement 60 000 francs. Pour les denrées alimentaires, il y a baisse des prix à Moigné et hausse des prix à Butembo. Un seau de farine qui coûtait à Moigné 5 000 francs, aujourd'hui ça s'achète à 1 000 francs. Les denrées alimentaires pourrissent dans la route. Par exemple, pour transporter du sombé, ça devient tout à fait difficile. Il y a aussi certains décès des malades, car on veut référer un malade à Butembo. Suite à la route impraticable, les malades peuvent directement trouver la mort à route. Il y a aussi noyade certains, car ce dernier compte des rivières qui n'ont pas de ponts. Dans d'autres milieux, il y a les sécurités. Nous lançons un appel au gouvernement congolais de venir en aide le plus tôt possible pour la réhabilitation des routes.
Actualité internationale.
Le Zimbabwe a déclaré l'état de catastrophe mercredi en raison de la sécheresse dévastatrice qui sévit dans une grande partie de l'Afrique australe. Le président du pays a déclaré qu'il avait besoin de 2 milliards de dollars pour l'aide humanitaire. Cette déclaration a été largement attendue à la suite des mesures similaires prises par les pays voisins, la Zambie et les Malawi, où la sécheresse liée au phénomène climatique El Nino a ravagé les cultures, laissant des milliers de personnes dans les besoins d'une aide alimentaire.
L'invité.
À Kinshasa, les quartiers Plateau 1, communément appelé Tchad, situé non loin de l'université de Kinshasa, dans la commune de Mongafula, ainsi que la paroisse Sainte-Honorine, qui l'abrite, risque de disparaître si l'on n'y prend garde à cause des érosions qui les menacent depuis quelques années. Le père André Mangongo, curé de cette paroisse, lance un cri d'alarme auprès des autorités et des personnes de bonne volonté pour accompagner les initiatives locales de lutte contre ces érosions. Le père André Mangongo s'entretient avec Jean-Pierre et Lali Coco.
Père André Mangongo, bonjour.
Bonjour, monsieur le juge.
Vous voulez nous parler d'une situation que connaissent vos paroissiens ici?
Ici, dans notre quartier communément appelé Tchad, là où se situe la paroisse Sainte-Honorine, nous avons quelques défis majeurs. Le premier défi, c'est d'abord le problème d'érosion. Le terrain est nouvellement loti et il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de canalisation d'eau, il n'y a pas de caniveau. Alors quand il pleut, l'eau cherche à trouver un endroit pour passer et c'est comme ça que ça crée tous ces dégâts que vous voyez ici, les érosions par-ci. Et surtout ici dans notre paroisse qui est vraiment menacée à cause de l'érosion que vous venez juste de voir de l'autre côté.
Oui, oui, l'érosion menace votre paroisse et même les habitations de ce quartier. Mais vous avez entrepris avec vos paroissiens des initiatives pour arrêter un peu l'expansion de l'érosion. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces initiatives?
Les gens prennent des initiatives. Nous aussi, au niveau de la paroisse, nous avons pris l'initiative de rembler avec les sacs. Nous avons acheté des sacs vides, nous les avons remplis avec du sable. Et puis, on a créé une forme de digue pour empêcher que l'eau puisse passer. Puis, on y a planté des bambous. Et on a même un projet protéger les sols ici qui est très érosif, de planter 3000 arbres. Donc ça, c'est un projet que nous sommes en train de travailler. Mais comme initiative personnelle au niveau paroissial, c'est seulement l'achat des sacs, la création des digues. Et puis, on a demandé quand même à tous nos paroissiens que chacun dans sa maison puisse créer un puits de rétention d'eau. Parce que si chacun a un puits de rétention d'eau, moins d'eau viendra sur la route et avec ça, on aura moins de dégâts.
Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à ceux qui nous suivent, les hommes de bonne volonté et voire même les gouvernements?
L'impression générale ici, c'est comme si le peuple est abandonné à lui-même. Il n'y a pas de route. Or, une route, c'est un facteur de développement. C'est que nous demandons d'abord que l'État ou les gens de bonne volonté, notre province, gouvernement provincial de Kinshasa, ils nous construisent une route. C'est juste 6 à 10 kilomètres pour nous connecter de l'Unikin, pour nous connecter avec Ndjili Brasserie. Parce que le président a déjà asphalté la route Sekomaf et la route Lembaimbu. Ça, c'est une route d'une grande importance. D'abord pour désengorger rond-point Ngaba, Unikin, même sous-région, même Pomatete. Parce qu'à partir d'ici, nous sommes à 20 minutes de Kimbuta, de Saint-Thérèse. Donc si on connecte ce mot Unikin avec la route de Sekomaf, ça va être 10 à 15 minutes. Tu sors directement au niveau de Kimbuta là-bas. Qu'on nous arrange seulement cette route, de plateau de professeurs jusqu'à Djeli Brasserie. De deux, il n'y a pas d'électricité. Les gens de SNEL nous ont promis des cabines. Ils sont même venus avec des cabines et nous disent, mais on ne sait pas arriver. Avant qu'on amène les cabines, il faut que vous arrangez la route. Et la population qui est pauvre, comme vous le voyez ici, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour arranger d'abord la route avant que les gens de la SNEL puissent venir avec des cabines? Troisièmement, il n'y a pas d'eau, comme vous voyez ici. Donc, les gens souffrent. C'est quand il ne pleut pas pendant deux jours, c'est difficile à voir. Je sais que c'est un problème général à Kine, mais au moins ailleurs, ils ont un peu des régies des eaux, tout ça. Mais ici, il n'y a pas tout ça.
Votre paroisse est menacée de spoliation. Qu'est-ce que vous faites pour arrêter cette spoliation qui se dessine?
Ça, c'est vraiment un problème qui me préoccupe. Le terrain a été acquis par l'église depuis 57-60. Jusqu'il y a 5 ans, il n'y a personne qui spoliait les terrains, parce que tout le monde savait ici que ça, c'est le terrain de l'église. Par mauvaise foi, certains membres de la famille du chef Thumier ont commencé à vendre la parcelle de l'église. Donc, c'est comme ça que le terrain est très squatté, très spolié. Tous ces gens-là n'ont pas de papier. Le terrain cadastré, c'est le terrain de l'église. C'est des gens, c'est des familles entières. Comme vous le voyez, ce ne sont pas des gens qui sont nantis, hein, c'est des gens qui se débrouillent. Et ça nous fait mal comme église. Mais nous sommes en train de demander au chef.
Pêcheur coutumier.
Oui. Il les a escroqués de leur trouver d'autres endroits. Parce que, vous voyez ici, non seulement il y a le projet de construire l'église, on veut construire une bonne école catholique, un centre de santé pour les gens du coin. Parce que, mais on ne sait pas comment c'est les travaux, on ne sait rien faire parce que le terrain est spoli.
Je vous dis grand merci, Père André.
Père André Mangongo répondait aux questions de Jean-Pierre Elali Koko. Et c'est par ici que je mets un terme à cette session d'actualité. La dernière de cette matinée, sa mise en onde était assurée par Alain Goy et supervisée par Alain Irung et Jude Bilanda. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi.